Tu as certainement un message à donner pour chacun d'entre nous. Parce que tu es le bon berger et tu aimes chacune de tes brebis. Nul n'est ignoré, nul n'est méprisé, nul n'est rejeté. Parce que tu as donné ta vie pour chacune de tes brebis. Ainsi, Seigneur, inspire-moi selon les besoins de ton peuple. Et que chacun, Seigneur, retire une parole qui vienne de toi. L'encourage, le fortifie pour sa marche chrétienne. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Et à ton nom soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Amen. Alléluia. Il est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Combien sa paix nous inonde. Combien ce repos divin pénètre en nous. Dans un monde stressé, agité, combien nous avons besoin de cette présence qui nous tranquillise, qui nous apaise, n'est-ce pas vrai? Et le Dieu de la résurrection est celui qui apporte cette paix divine. N'a-t-il pas dit, après sa résurrection, lorsqu'il s'est approché de ses disciples, que la paix soit avec vous? La paix de la résurrection, alléluia. Car dans la vie de résurrection, tout est paix, alléluia. C'est la paix parfaite dans la vie de résurrection. C'est l'abandon total entre ses mains pour que sa volonté parfaite s'accomplisse. Que son nom soit béni. Nous allons donc rester dans ce sujet de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et voir un aspect particulier de ce message. Cette fois, nous allons voir ce que les anges ont dit aux disciples qui étaient abattus, découragés, dispersés. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que le premier message de la résurrection a été donné par des anges. C'est par des anges, à Marie et aux autres, à Marie surtout. Et alors, il y a là dans ce message qui a été donné aux anges, un message pour chacun d'entre nous. Nous savons que les anges sont des envoyés de Dieu. Ils sont au service de Dieu pour nous annoncer le conseil de Dieu, n'est-ce pas vrai? Ils vivent vraiment dans la présence de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et ils interprètent la pensée de Dieu d'une manière parfaite. C'est pourquoi dans ce message des anges, pour nous, pour notre génération, nous voyons que, au travers de ce message, c'est le Seigneur qui nous parle, n'est-ce pas vrai? Car nous voyons une seule chose, il ne glorifie que le Seigneur. Amen.
Amen.
Cette manifestation surnaturelle glorifiait le Seigneur et lui seul.
Amen.
Toute manifestation spirituelle ne vient pas forcément de Dieu. Cette manifestation, pour être authentique, doit glorifier notre Seigneur Jésus. Doit glorifier sa mort sur la croix, son sacrifice sanglant pour nos péchés, et sa glorieuse résurrection, et sa parole, et la parole de notre Dieu. Toute manifestation spirituelle ne vient pas de Dieu. Tout doit passer par le crible de sa parole. Et nous allons voir que par ces messages de l'ange, nous voyons qu'ils sont vraiment au service de Dieu et deviennent ainsi la bouche même de Dieu. Hallelujah! Alors nous allons lire dans Luc 24 et dans quelques versets, nous allons découvrir les 10 messages de l'ange sur la résurrection de Jésus, les 10 messages que les anges, l'ange nous adresse de la part du Seigneur. Amen. Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Et devant le sépulcre, de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Et nous savons dans les autres évangiles que ces deux hommes en habits resplendissants, ce sont deux anges. Ils avaient une apparence d'homme, c'est pourquoi on les appelle comme cela. Mais c'était des anges glorieux, apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, et voilà le message qu'ils ont adressé aux femmes, et qui s'adresse à nous encore aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Ce passage est extraordinaire. Et si nous lisons un peu les quatre évangiles où nous voyons justement cette apparition d'anges, il y a là quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Vous avez remarqué au début, il est dit « saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ». Et dans l'évangile de Matthieu 28, verset 5, les anges ont dit « ne craignez pas, car je sais que c'est Jésus que vous cherchez ». Vous n'avez rien à craindre. Les autres qui ne croient pas, ils ont tout à craindre. Ils sont dans la terreur. Mais vous, ne craignez pas. C'est comme cela que le message de la résurrection commence. J'ai noté 10 messages. Le premier message, c'est une réassurance que Dieu nous donne. Ne craignez pas. La frayeur est là. L'angoisse est là. Mais la résurrection, c'est un message qui enlève absolument toute crainte. Amen. Toute crainte. Nous n'avons plus à avoir de la crainte, sous quelque forme que ce soit. Et cela, nous avons besoin de l'entendre et de le réentendre. Amen. Combien de fois nous sommes un peu comme ces femmes? Nous sommes devant un événement extraordinaire. Et au lieu de bien réagir, voyez comme elles réagissent. Nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Et nous sommes tous prêts à réagir comme cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester dans la crainte. Cela ne veut pas dire que la crainte doit nous dominer, que la crainte doit nous tourmenter. Et le message que le Seigneur t'adresse ce matin, c'est une réassurance. Ne crains pas, tu n'as rien à craindre pour ta vie présente comme pour la vie future. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce que tu as à craindre? S'il est ressuscité, s'il est ton berger, il ne t'abandonnera jamais. Sa houlette et son bâton te rassurent. Si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Tu n'as rien à craindre, absolument rien. Alléluia. Et si tu continues de persister dans la crainte, tu déshonores ton Sauveur. C'est comme si tu disais, Seigneur, ouais, bon, tu es ressuscité, mais finalement, ça ne me sert pas à grand-chose. Hein. Ta résurrection, finalement, n'a pas d'influence dans ma vie. Voyez-vous? Nous déshonorons le Seigneur. Que de fois, ces craintes nous paralysent. Et le message du Seigneur pour toi, pour moi, ce matin, ne crains pas, tu n'as rien à craindre. Dans quelque domaine que ce soit, tu n'as rien à craindre. Il est ressuscité.
Alléluia.
Il a vaincu la mort. Il a vaincu le dernier ennemi. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as pas à craindre aucun ennemi, qui que ce soit. Il est plus fort que tout.
Alléluia.
Nous l'avons vu, n'est-ce pas, hier. Il est le lion de la tribu de Juda. Et le lion, est-ce qu'il a peur d'un animal? Pas du tout. Le lion n'a peur de rien du tout. Et Jésus est avec nous.
Amen.
Sans crainte. C'est le lion de la tribu de Juda, l'invincible, le tout-puissant. Alléluia.
Amen.
Le message de ce matin pour toi, ne crains pas. Qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tu crains? Pour toi-même? Pour les tiens? Pour ton travail ou autre? Ne crains pas. Le Seigneur n'a jamais abandonné les siens. Jamais. Dans quelque domaine que ce soit, tu n'as pas à craindre.
Alléluia.
C'est ce que les anges ont dit. Les autres, oui, ils peuvent s'effrayer. Mais vous? Vous croyez au Seigneur? Ne faites pas comme eux. Que c'est triste quand des chrétiens ont la même attitude que les païens, n'est-ce pas vrai?
C'est vrai.
Notre témoignage est complètement gâché. D'un souffle, nous disons, le Seigneur est merveilleux. Il nous garde. Et puis d'un autre souffle, oh, vous savez, ça ne va pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Les personnes disent, mais qu'est-ce que c'est que ce témoignage? Alors, une fois on dit, il est merveilleux, merveilleux. Et puis une autre fois, ah, oh, ça ne va pas, c'est terrible, j'ai peur, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyez-vous, il y a une contradiction. Le message de Pâques est là pour dominer nos craintes. Je ne veux pas dire qu'on n'aura plus jamais peur. On est encore humain. Mais mes amis, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Amen.
On peut avoir ses craintes, mais il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et tu n'as pas justifié tes craintes.
Amen.
Si tu les justifies, c'est de l'incrédulité. Et Dieu n'est pas d'accord avec l'incrédulité. Le message, saisi de frayeur et d'épouvante, elle se baisse la tête. Vous vous rendez compte, c'était pas le moment de baisser la tête. Elle voit des anges. Mais vous vous rendez compte, c'est pas le moment de baisser la tête. Si on a une visitation d'anges ici, vous croyez qu'on va tous baisser? C'est le moment de les regarder. Bien sûr, dans notre frayeur, on a saisi, d'accord? Mais vous aussi, levez la tête, c'est le moment. Des vêtements resplendissants. Mais elles ont manqué quelque chose, là. Parce que si elles avaient vu le visage resplendissant, parce que les anges n'avaient pas seulement des habits resplendissants, mais aussi un visage resplendissant. Alléluia!
Alléluia!
Et quand, si elles avaient vu le visage de ces deux anges, elles auraient repris courage. Qui cherchez-vous? Il n'est pas là. Vous n'avez rien à craindre. Quel contraste entre eux et les femmes! Une réassurance! Il est ressuscité! Comprends la portée d'une telle expérience, d'une telle réalité.
Amen.
Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre.
Amen.
Est-ce que le Seigneur abandonne les siens?
Amen.
Jamais. Nous l'abandonnons. Mais lui ne nous abandonnera jamais.
Amen.
Alléluia. Et nous le voyons ici. D'abord, il envoie ses anges. Et après, il vient lui-même. Premier message, ne craignez point, ne crains pas. Disons, Seigneur, Seigneur, tout est parfait, tu es là, tu seras avec moi, tu seras avec moi. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mes amis, si nous ne croyons pas ces paroles, la crainte nous dominera. Nous perturbera. Ne crains point, tu n'as aucune raison. Si Jésus est ton sauveur, s'il est ton rédempteur, sache qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est tous les jours avec toi. Il est tous les jours avec toi, pas seulement pendant des réunions comme celle-ci, mais tous les jours avec toi.
Amen.
Ne crains point. Alléluia.
Amen.
Et contemple ton Sauveur. Ne baisse pas la tête. Un deuxième message maintenant. Luc, toujours dans Luc, il est dit, comme elle ne savait que penser, voilà, saisie de frayeur, elle baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors attendez voir, encore dans Matthieu 28, verset 6, les anges ont dit encore autre chose. Matthieu 28, verset 6, il y a là une parole encore qui est dite. Matthieu 28, verset 5, vous voyez qu'elles tremblèrent tout cela, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5, Matthieu 28, 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pourquoi craignez-vous? Voyez-vous la crainte. Ensuite, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Et maintenant, voilà ce qu'ils disent. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Soulignez bien cette pensée-là. Comme il l'avait dit. Alors, le deuxième message de l'ange, c'était la confirmation de ce que Jésus avait dit. Les anges sont là pour confirmer ce que Jésus avait dit. Voyez-vous, ils mettent l'accent sur la parole de Jésus. Les femmes et les autres disciples étaient troublés. Pourquoi? Parce que finalement, ils n'avaient pas cru la parole de Jésus. Est-ce que Jésus ne les avait pas avertis? Il les avait avertis. Il leur avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié et que le troisième jour, il ressusciterait des morts. Donc, ils n'avaient pas à s'en faire. Ils n'avaient pas à être tourmentés inutilement. Alors, les anges sont là et apportent un message. C'est une confirmation de ce que Jésus a dit. Et là, il y a quelque chose de glorieux. Jésus a dit la vérité. Jésus a dit la vérité. Nous pouvons vraiment croire en lui. Nous n'avons pas besoin de la confirmation d'un ange pour croire ce que Jésus dit. Amen. Sa parole doit nous suffire. Bien souvent, nous sommes là pour demander beaucoup de confirmation. Et alors que la parole de Dieu est là pour nous donner toutes ses assurances. Amen.
Amen.
Toutes ses assurances sont là. Comme il vous l'a dit, il est ressuscité. C'était comme si l'ange disait, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Il vous l'avait dit. Il vous l'avait dit. Jésus dit la vérité. Il l'avait annoncé et ça s'est réalisé. Donc le message pour nous, mes amis, c'est de réaliser que ce que Jésus dit est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons vraiment croire sa parole. Nous devons le prendre au mot. C'est comme les anges disaient, si les anges avaient dit, mais vous auriez dû prendre sa parole au mot. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous auriez dû prendre sa parole. Il vous l'a dit. Pour qui vous prenez le Seigneur? Pour qui vous avez pris le Seigneur? Il l'a dit. Nous devons réaliser que le ressuscité est quelqu'un qui ne ment pas. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. D'où l'importance de bien méditer sa parole, de s'en nourrir. Sinon, nous sommes tourmentés par nos propres pensées. Et le diable en donne aussi. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Quand vous discutez avec certains, ils sont dans la confusion. Pourquoi? Parce que ils ne méditent pas assez les paroles du Seigneur. Il n'y a pas assez dans leur pensée cette autorité de la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit comme il vous l'a dit. Le Seigneur l'a dit dans telle circonstance, c'est comme cela. Dans telle autre, c'est comme cela. Il l'a dit, il l'a dit. Je le crois. Alléluia. Voilà ce qui glorifie le Seigneur. Voilà ce qui vous donne la paix. D'où l'importance de bien méditer les paroles du Seigneur et de le prendre au mot, car le Seigneur ne ment pas. Il est ressuscité comme il vous l'a dit. Une confirmation que toutes les paroles du Seigneur s'accompliront. Amen. Tôt ou tard, certaines s'accomplissent ici-bas, mais toute sa parole s'accomplira là-haut. Il est le témoin fidèle. Amen. Il est le témoin fidèle et il confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Il est le Dieu fidèle. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Une confirmation des paroles de vérité de Jésus. Croyons-le, mes amis. Croyons, méditons. Nous ne pouvons pas croire quelque chose que nous ne croyons pas, que nous ne méditons pas, je veux dire. On ne peut pas croire quelque chose qu'on ne médite pas, dont on ne se nourrit pas. Et beaucoup de chrétiens négligent leur méditation de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi certains sont dans de telles difficultés. La prédication est importante que vous entendez, mais elle ne doit jamais remplacer votre méditation personnelle. Vous avez besoin de vous nourrir de cette parole, afin que dans votre cœur, dans vos pensées, vienne toujours « Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, dans telle ou telle circonstance, mais le Seigneur a dit. » C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours tout faire tout de suite, parce que certains ils sont tellement pressés aussi. Hein? C'est les chrétiens presse-bouton. Avec eux, ça doit toujours marcher tout de suite. Et si ça ne marche pas tout de suite, ils vont tout promener. Non, sa parole est la vérité. Il sait très bien comment il doit agir à ton égard. C'est le bon berger. Il a un plan parfait pour ta vie. C'est lui qui dirige ta vie, et non pas toi diriger le Seigneur. Certains chrétiens, c'est eux les maîtres, et c'est le Seigneur, leur serviteur. À les entendre parler, à les entendre prier, c'est eux qui commandent le Seigneur à faire tout ce qu'ils désirent. Mais oui, quand vous entendez certains chrétiens, c'est eux qui commandent toujours au Seigneur. Seigneur, tu dois faire ceci, Seigneur, tu dois faire ça, Seigneur, tu dois faire ci, Seigneur, tu dois faire ça. Ils sont là, c'est eux les maîtres. Mais vous êtes trompés. Vous avez des mauvaises lunettes. Vous avez une mauvaise version, quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres, c'est lui qui est le maître. Et nous sommes ses serviteurs. Amen. Seigneur, fais comme tu veux, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Si tu te prends toi-même pour le serviteur, pour le maître, et tu commandes toujours au Seigneur ce qu'il doit faire dans ta vie, ce n'est pas étonnant que tu aies dans une telle confusion. Car nos pensées nous conduisent toujours dans l'impasse. Nos pensées nous tourmentent et ne mènent à rien du tout. Mais tu auras la paix de la résurrection, lorsque tu croiras à ces paroles, comme il vous l'a dit. Quel beau message ces gens ont apporté, n'est-ce pas vrai? Il vous l'a dit. Il vous l'a dit, c'est tout. Il n'y a aucune discussion là-dessus, il vous l'a dit. C'est de votre faute si vous êtes dans cet état-là. C'est de votre faute. Il vous l'a dit. Pourquoi vous êtes là, sans dessus, dessous, vous êtes dans pied? Pourquoi? Il vous l'a dit. Il vous l'a dit. Il a dit la vérité. Ah, apparemment, on pouvait penser qu'il n'avait pas dit la vérité, n'est-ce pas vrai? La croix, c'est terrible. On a l'impression que la croix... D'apparence, c'est le plus grand échec dans la vie de Jésus, n'est-ce pas vrai? Plus grand échec. Son ministère a été extraordinaire. Il a fait des miracles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il avait un enseignement extraordinaire. Il avait l'esprit prophétique, il était comme un prophète. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes, des femmes, n'est-ce pas vrai? Quand on voulait le tromper, il est dit que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit. Quand certaines personnes croyaient en eux, Jésus ne se confiait pas en eux. Il a dit qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. C'était tout du cinéma et de l'apparence. Il savait. Son ministère extraordinaire a été merveilleux, n'est-ce pas vrai? Et apparemment, personne n'a pu l'arrêter, quoi que ce soit. Mais il semble que vers la fin de sa vie, cette croix ait été comme un échec. Mais aux yeux des disciples, pas à ses propres yeux, n'est-ce pas vrai? Parce que les disciples auraient toujours voulu avoir ce Jésus qui fait des miracles, toujours là, toujours qui marche sur les eaux. Quand ils ont faim, allez, il faut faire la multiplication des pains. Vous voyez, ils voulaient toujours un Jésus comme ça, toujours en train de faire des choses extraordinaires. Mais Jésus voulait leur apprendre à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi dans sa parole. Alléluia. La croix a été une défaite que d'apparence. En réalité, c'était là sa plus grande victoire. Son plus grand triomphe, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes les plus forts. Alléluia. Et là, la Bible dit qu'il a été crucifié en faiblesse, mais ressuscité par la puissance de Dieu. Il était tellement faible qu'on semblait que Dieu l'avait abandonné. C'est pourquoi les scribes, les pharisiens, même la foule qui était là, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, on croira en toi. Descends. Quelle moquerie. Un état de faiblesse extrême. Et on se moque de lui. Mais ce n'était qu'une apparence. 3 jours après, Dieu a dit la vérité et a confirmé les paroles du Seigneur, ce qu'il a dit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai, je le relèverai. Alléluia. Et toutes les paroles du Seigneur ont été accomplies. Alors même si apparemment les choses vont de travers, cela ne veut pas dire que sa parole n'est pas la vérité. Attache-toi à cette parole. Attache-toi comme il vous l'a dit. La plupart des problèmes proviennent de là, mes amis. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons des visitations d'anges pour que, soi-disant, simplement pour nous confirmer que la Bible, que Jésus a dit la vérité. Mais on n'a pas besoin d'une vision d'ange pour ça. Et si tu persistes pour avoir une vision d'ange simplement pour que ces anges viennent dire la parole de Dieu, Jésus dit la vérité, tu risques d'avoir une autre visitation. Tu risques d'avoir une autre visitation quand tu demandes des choses stupides comme cela. Sa parole est la vérité. Jésus a dit la vérité. Alléluia. Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alors, premièrement, une réassurance. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Vous n'avez rien à craindre. Il est vivant. Alléluia. Donc, il a détruit le dernier ennemi. Maintenant, alléluia. Il est là. Il ne vous abandonnera pas. C'est terminé. Voilà, une nouvelle vie commence. Alléluia. Il sera tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Une réassurance. Nous n'avons plus à être dominés par la crainte. Tu dois dominer, toi, la crainte. Comment? Par sa parole. Une réassurance, une confirmation que Jésus dit la vérité. Troisièmement, Marc 5, 15, 17, un autre message. Un message à communiquer. 15, 7, Marc 15, 7. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Non, c'est un message. Mais c'est quand il leur dit, mais allez dire à ses disciples, quand les anges ont dit, allez dire à ses disciples. Combien ? 16, 7. Ah, c'est 16. Voilà, je me suis trompé de chapitre. 16, 7, oui. Ah oui, voilà. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Voyez-vous, maintenant, il y a un message supplémentaire. Ce que vous avez reçu, si vous croyez qu'il dit la vérité maintenant, vous devez le dire aux autres. Amen. Vous devez le communiquer. C'est un message qu'on ne peut pas garder pour soi-même. C'est un message qu'on doit communiquer. Amen. C'est un message glorieux, n'est-ce pas vrai? C'est le message le plus glorieux.
Amen.
Mais la crainte et le doute de sa parole peuvent nous paralyser complètement et nous empêcher d'être les témoins de Dieu. Mais allez dire maintenant à ses disciples un message à communiquer. Si Dieu te bénit, tu dois aller le dire aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. D'une manière ou d'une autre, tu ne dois pas garder pour toi-même. Il y en a qui ne vivent que pour eux-mêmes. C'est toujours « bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi ». Mais c'est toujours ça. Et ils ne pensent pas à autre chose qu'à eux-mêmes. Ils tournent autour d'eux-mêmes. Ta prière doit être celle-ci, non pas « bénis-moi, Seigneur », mais « rends-moi en bénédiction ». Rends-moi en bénédiction aux autres. L'ange a dit « allez maintenant, allez dire ça ». Cette nouvelle est extraordinaire. N'allez pas garder cette nouvelle pour vous. Allez communiquer aux autres. Allez le dire aux autres. Alors, nous devons, nous aussi, sortir de nous-mêmes et aller dire ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons expérimenté. Nous ne devons pas garder pour nous-mêmes, car c'est en donnant que nous recevons, n'est-ce pas vrai? Écoutez-moi bien, très important. À celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si tu veux recevoir davantage, tu dois donner davantage.
Amen.
Tu dois te donner davantage. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu risques même de tout perdre si tu ne donnes pas aux autres ce que tu as reçu.
Amen.
Tu dois veiller à cela. Ne garde pas. C'est le message de la résurrection, c'est ça. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est un message tellement glorieux, vaste, extraordinaire, qui n'est pas fait que pour une personne. Il est fait pour le monde entier, alléluia. Il est fait pour tous les hommes, toutes les femmes. Un message à communiquer, c'est le seul message du salut. Proclamons, c'est cela la résurrection. Un message à proclamer, à les dire à ses disciples. Ne garde pas. Plus tu donnes, plus tu recevras. L'âme bienfaisante sera elle-même rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu veux être arrosé? Ben, commence à arroser les autres. C'est tout simple. Ah Seigneur, arrose-moi, bénis-moi. C'est pas comme ça que ça marche. Seigneur dit, arrose les autres. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voyez, quand vous pensez aux autres, Dieu pense à vous. C'est cela le principe divin. Non pas, bénis-moi. Ça ne va pas. Et en général, ces chrétiens qui sont bénis comme cela et qui ne savent pas qu'ils sont bénis pour être en bénédiction, ils perdent leur bénédiction. Alors ça dure un temps, mais ça ne dure pas longtemps. On a l'impression que les bénédictions tombent dans un sac percé. Dans un sac percé. Quand ils reçoivent, alléluia, merveilleux. Vous les voyez, quelques temps après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est dans un sac percé, il y a des trous quelque part. Ça rentre, mais ça sort aussi. Ça rentre. D'autres, certains, ça rentre ici, puis ça sort par là. Ils ne retiennent rien. Il n'y a rien. Si tu veux garder, tu dois donner. Tu ne gardes que ce que Dieu, que ce que tu donnes aux autres. Amen. Et c'est en donnant que tu verras que Dieu te donnera encore beaucoup plus. Amen. Mais tu dois renoncer à toi-même. Ne dis pas, mais moi, je n'ai rien à donner. Non, non. Si tu as le Seigneur, tu as quelque chose à donner, à communiquer. Alléluia. Communique, donne. Va le dire. C'est ça la résurrection. C'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas garder cette nouvelle pour nous-mêmes. Alléluia. Il y en a tant qui annoncent des bêtises, n'est-ce pas vrai? Des philosophies, des théologies même, entre guillemets, des psychologies, des tout un tas de choses qui ne valent rien du tout. Des religions, et ils donnent même leur vie pour communiquer cela. Nous qui avons le message libérateur, à combien plus forte raison, nous devons le faire. Amen. Alléluia. C'est cela la résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. Quatrièmement, un autre message de la résurrection, il est dit, mais allez dire à ses disciples. Soulignez bien le mot « c'est », le pronom possessif, « c'est ». Qu'est-ce que c'est comme message? C'est un témoignage de fidélité, cette fois, du Seigneur, envers ses enfants. Allez dire à ses disciples. Vous voyez, comme pour dire, le Seigneur n'a pas abandonné les siens, ce sont ses disciples. Lui-même l'avait dit, dans quelque temps, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Mais après sa résurrection, il est venu et il est allé. Et par les anges, il dit, allez dire à ses disciples. Alors là, il y a un témoignage de fidélité du Seigneur à l'égard des siens. Dans l'épreuve, dans la tourmente, Dieu veut te dire, que tu es son disciple. Même si tout semble contre toi, il est là avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voilà le message de la résurrection. Un témoignage de fidélité à ses disciples. Il ne les abandonne jamais. Même si nous avons l'impression qu'il n'y a plus rien, que nous sommes seuls, ce n'est pas vrai. Ses disciples, tu es encore sur son cœur. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Le bon berger est ressuscité et il va retrouver toutes ses brebis. Il les aime. Il est le témoin fidèle. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alors, Voilà le témoignage de fidélité. Le Seigneur, lui, dans sa résurrection, veut te dire que tu es à lui. Et que même s'il y a des choses qui semblent te troubler, te tourmenter, il ne t'abandonnera jamais. Il est là. Il est là. Alléluia. Même si tu n'en as pas l'impression, la conviction, mais il est là. Crois-le. C'est cela la résurrection. C'est un témoignage de fidélité du Seigneur. Amen. Mais allez dire à ses disciples que c'est beau cela. C'est comme si le bon berger disait, moi je suis fidèle. Je suis le bon berger fidèle. Nous, nous sommes infidèles, mais lui, il est toujours fidèle, toujours. Quand tu penses que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas vrai. Il est toujours fidèle, tu dois le croire de tout ton cœur. Amen. Allons un peu plus loin. On en est où, à combien? Cinquième message? Alors, attendez voir. Ça fait quatre, oui, quatre avec un témoignage de fidélité, ça fait quatre. Et maintenant, un cinquième message. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Il est dit dans 16:7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Là, il y a quelque chose. C'est merveilleux, cela. C'est comme si le Seigneur avait dit aux anges, tu vas leur dire ça. Hein? Tu vas leur dire, voilà, ceci. Et tu diras que j'ai un message aussi pour Pierre, que je vais le rencontrer là-bas. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Un cinquième message, c'est un appel d'amour. Un appel ou un rappel d'amour, si vous voulez. Et allez dire aussi à Pierre. Le bon berger, par là, veut dire qu'il n'a pas abandonné Pierre. Pierre l'a renié, Pierre l'a abandonné, mais le Seigneur, lui, ne l'a pas abandonné. N'est-ce pas vrai? Et Pierre, vous savez, quand il y a eu un tel reniement, on peut penser dans son cœur, certainement maintenant, le Seigneur ne voudra plus de moi, n'est-ce pas vrai? Et on s'en veut terriblement d'avoir fait quelque chose qui a déshonoré le Seigneur. Peut-être que certains ici, et tous d'une manière ou d'une autre, mes amis, à un moment donné dans notre vie, nous sommes un peu comme Pierre. Nous avons eu honte de lui. Nous avons fait des choses qui l'ont déshonoré. Mais le Seigneur te dit, voilà le message de la résurrection. C'est un appel d'amour, un rappel d'amour. Allez dire à Pierre, qui est tourmenté là, qui est découragé, qui pense que le Seigneur ne l'aime plus, allez dire à Pierre que je l'aime encore et que j'ai quelque chose de beaucoup plus glorieux encore pour lui. N'est-ce pas extraordinaire? Le message de la résurrection, c'est toujours une espérance nouvelle. Avec la résurrection, c'est toujours du nouveau. C'est toujours de choses glorieuses en choses glorieuses. C'est de victoire en victoire. C'est de gloire en gloire. C'est de foi en foi. Alléluia! Cinquième message des anges, dit à Pierre aussi. Pierre, je ne sais pas si les femmes sont allées, certainement. Ils ont dit, mais tu sais que l'ange a dit aussi que c'était... L'ange a dit que le Seigneur pensait à toi, il veut te voir aussi toi. Il t'a nommé. Tu sais pas, il t'a nommé, c'est vrai. C'est vrai, il a dit Pierre. Il n'a pas dit aux disciples, à tout seulement. Non, non, il a dit, il a ajouté, et à Pierre, à toi. C'est vrai? Non, non, dites pas, non, dites la vérité, n'ajoutez rien du tout, s'il vous plaît. Non, il a dit ça, et à Pierre, en plus, il a rajouté. C'est vrai? Quelle parole de consolation. Il m'aime encore. Il veut encore de moi. Quel message extraordinaire. Il veut encore de toi. Il veut encore de toi. Quel que soit ce que tu as fait, il t'aime encore. Reviens simplement comme Pierre, dans la repentance. Pleure amèrement sur ce qui a déshonoré le Seigneur. Mais viens, il t'aime encore. Amen. Alléluia. Un appel d'amour à ceux qui l'ont abandonné. Alléluia. Il veut tout faire à nouveau dans ta vie. Merci Seigneur. Sixième message, Luc 24, verset 5. Luc 24, verset 5. Les anges ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alors là, maintenant, l'autre, le sixième message, dans cette parole-là, il y a un reproche. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est comme un reproche que le Seigneur leur fait. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Vous n'avez pas à le faire. Et vous savez, Jésus lui-même a fait des reproches aux disciples qui n'avaient pas cru aux femmes qui leur avaient dit ceci, n'est-ce pas? Il est dit dans Marc 16, 14, il est dit, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. » Vous remarquez ici, « et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Le Seigneur fait aussi un reproche indirectement comme cela, parce que souvent, nous avons des évidences de ce que Dieu fait, et encore, nous doutons continuellement. Vous savez qu'il y a les douteurs professionnels, n'est-ce pas vrai? Les douteurs professionnels, ils sont là, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, toujours. Même si le Seigneur venait ici, c'est le Seigneur, c'est pas sûr que ce soit lui, je ne sais pas, mais il y a toujours quelque chose. À un moment donné, Dieu nous dit qu'il faut croire, simplement, si c'est en accord avec sa parole, nous devons croire ce que Dieu dit. Amen. Et c'est comme cela que nous aurons la paix dans notre cœur. Septième message, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une question maintenant. Pourquoi? Mais ce n'est pas là que vous devez le chercher. Ce n'est pas là que vous devez le chercher. Il est vivant, il l'a dit. Le Seigneur souvent nous pose des questions. Avez-vous remarqué cela? Il nous pose des questions. Et nous avons aussi beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais nous devons réaliser que nous n'avons pas à nous en faire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant? Il y a beaucoup de choses qui se résoudront d'elles-mêmes si nous croyons tout simplement sa parole. Amen. Tout simplement, soyons comme de petits enfants. Croyons et le Seigneur fera de grandes choses. Enlève tes questions. Crois seulement. Il l'avait dit. Ne doute pas. Ne viens pas en doutant continuellement. Crois-le. Amen. Il y en a qui sont bénis de Dieu et encore doutent. Ah oui, mais je ne sais pas. Oui, c'est incroyable. Combien de fois on a vu des gens bénis qui ont même été guéris. Ah, mais je ne sais pas si ça va durer, vous voyez. Je ne sais pas si ça va durer. Et Dieu les a bénis dans tel autre domaine. Ah, mais je ne sais pas, j'ai peur. Oui, Dieu les bénit. Et encore, ils doutent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a un reproche que Dieu nous fait. Nous ne devons pas en permanence rester dans cet état d'incrédulité. Le Seigneur leur a reproché cette incrédulité. Il ne leur a pas dit, oh bon, puisque vous ne m'avez pas vu, c'est normal, c'est bien. Vous n'aviez pas besoin de croire ces femmes. Non, non, non. Quand Dieu peut nous parler par sa parole, mais Dieu peut nous parler aussi par d'autres personnes. Amen. Avez-vous remarqué cela? Dieu peut nous parler pour nous exhorter par l'un ou par l'autre. Bien sûr, il faut que ce soit toujours conforme à sa parole, n'est-ce pas vrai? Mais souvent, nous voulons que ce soit seulement Dieu directement qui nous parle. Parfois, il le fait, mais parfois, il ne le fera pas. Quand tu es entêté dans ce domaine-là, il y en a qui sont tellement spirituels qu'il n'y a que Dieu qui doit leur parler directement du ciel. Moi, c'est avec le Seigneur que j'ai affaire. Et si je n'ai pas une vision de lui, ça ne marche pas. Et là, il y a une petite dame qui vient et tout. Mais le Seigneur m'a mis à cœur ceci, voilà. Même sans s'en rendre compte d'ailleurs, la personne parle. Et puis ça correspond exactement à ses besoins. Mais lui, il est tellement orgueilleux. Non, moi, c'est le Seigneur qui doit me parler. Et qui méprise. Quand Dieu utilise quelqu'un d'autre, Dieu te parle de mille et une façons. Et tu le sais dans ton cœur. Ne le doute pas. N'en doute pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Huitième certitude, Luc 24, 6. Alors là, c'est la certitude. Il n'est point ici, il est ressuscité. Une certitude, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. C'est une certitude. Est-ce que tu es sûr que Jésus est ressuscité et que tu es ressuscité avec lui? Alléluia. Car sa résurrection, c'est aussi ta résurrection. Il est ressuscité, c'est une affirmation, c'est une certitude. Tu dois en être convaincu. Il est ressuscité, il n'est pas là, cherchez pas là, parmi les morts, celui qui est vivant. Merci Seigneur. Donc ne cherchez plus parmi les morts, celui qui est vivant. Il est là, il vit avec toi, il te bénit, il veut t'aider. Alléluia, ne doute pas, crois seulement. Neuvièmement, verset 6, il est dit, il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et là, le message des anges est celui-ci, un rappel de ce que Jésus a dit. Un rappel, souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Souvenez-vous. Et c'est là un point important. Nous devons nous souvenir continuellement de ce que Dieu a fait dans notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons. Nous sommes dans une situation terrible maintenant parce que nous négligeons. Nous avons oublié tout ce que Dieu a fait dans le passé. Nous ne sommes plus reconnaissants. Nous sommes tombés dans l'ingratitude. Nous habitons dans la maison de l'ingratitude et dans le boulevard des murmures. Et nous sommes là et nous n'en sortons pas. Un rappel de ce que Jésus a dit. Quand tout va mal, rappelle-toi ce qu'il a fait dans le passé. Mes amis, parfois nous devons marcher comme à l'aveuglette. Dans ces moments-là, ce qui va nous soutenir, c'est de nous rappeler ce qu'il a fait dans le passé, dans notre vie. Déjà là, ces simples paroles nous renouvelleront, nous fortifieront, nous rafraîchiront. Souvenez-vous, souvenez-vous, ces moments glorieux, souviens-toi de ces moments glorieux. Souviens-toi, le diable voudrait que tu oublies cela. Que tu oublies cela. Mais si Dieu a fait des choses glorieuses dans ta vie, dans le passé, ce n'est pas pour les effacer complètement, c'est pour que tu t'en rappelles continuellement. Amen. Sois plein de gratitude. Sois plein de gratitude. La résurrection, c'est cela. Un esprit débordant de reconnaissance. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait dans le passé. Sois reconnaissant pour ce qu'il fait maintenant. Sois reconnaissant pour ce qu'il fera plus tard. Sois reconnaissant, rappelle-toi. La résurrection, c'est cela. Parfois, Dieu agit tout de suite. Mais parfois, on nous dit, j'ai déjà agi, ça suffit maintenant. Dieu nous dit, ça suffit, j'ai déjà agi dans ta vie. Maintenant, tu dois un peu te réjouir de tout ce que j'ai fait.
Amen. Alléluia.
Tu dois digérer ce que j'ai fait.
Amen.
Tu dois vivre déjà ce que j'ai fait. Au lieu de sauter toujours du coq à l'âne. On est là, toujours en train de courir à gauche, à droite, bénis-moi par-ci, bénis-moi par-là. On ne digère rien, on est là. On mange beaucoup de choses, mais on ne digère rien du tout. On est des véritables squelettes spirituels. On mange à beaucoup de choses, mais on mange n'importe quoi. Et on a des indigestions, on n'arrive pas à digérer. La nourriture que tu manges, c'est celle que tu digères qui te fait du bien.
Amen.
Pas celle que tu manges.
Amen.
C'est celle que tu digères.
Amen.
Parce que tu peux manger beaucoup sans digérer.
Amen.
N'est-ce pas vrai?
C'est vrai.
Et beaucoup de chrétiens mangent beaucoup, mais ils ne digèrent pas.
Mm-hmm.
Ça ne pénètre pas. Dieu a déjà agi. Dis-lui merci, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Il avait déjà parlé, il t'avait déjà averti. Vous savez, mes amis, certaines bénédictions sont faites aussi pour nous tenir dans les moments difficiles. Certaines bénédictions dans le passé sont là pour nous dire, eh bien, garde bien cela, parce que tu en auras besoin bientôt.
Amen.
Bientôt,
Amen.
Tu en auras besoin de caresser cela. Et non pas de dire, ah, Seigneur, c'est fini, mais, tu m'as abandonné. Non ! Il te donne, il t'a donné tant de choses, c'est pour que tu les caresses quand tout ira mal. Parce qu'à ce moment-là, il ne va pas te répondre. Parce que dans ce chemin-là, il ne te répondra pas. Ce n'est pas le moment. Il veut que ta foi soit fondée sur ce qu'il a déjà fait, que tu aies un cœur reconnaissant. Il y a des moments où le ciel est fermé. Mais le ciel est fermé après une action divine. Quand il nous a parlé, quand il a agi. Parce qu'il veut que nous marchions par la foi. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. Alléluia. Souvenons-nous, réjouissons-nous. Soyons reconnaissants.
Amen.
On en est où, au 9? Alors maintenant on arrive au 10e, enfin.
Alléluia.
Le 10e message, c'est un impératif. Luc 24, verset 7, il est dit... Lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Il faut. Le message, le 10e message de l'ange, c'était un impératif. Jésus avait dit qu'il fallait qu'il passe par là. Ce n'était pas une option. Je peux mourir ou je ne peux pas mourir, je ne sais pas, je ne suis pas sûr là. Je ne suis pas sûr, je vais à Jérusalem, je ne suis pas sûr si je vais mourir ou pas, j'en sais rien. Enfin, voilà, je vais voir, je vais voir. Est-ce que c'était comme ça qu'il les a préparés? Parce qu'à ce moment-là, les disciples auraient été dans le désespoir le plus complet. Ils n'étaient pas sûrs, ils les avaient préparés. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. C'est un impératif. Il a été crucifié, mais aussi il est ressuscité. Eux, ils avaient gardé que la première partie du verset. Il faut qu'il soit crucifié, c'est tout. Ils avaient gardé ça. Mais la deuxième partie, glorieuse, qui est l'accomplissement, la confirmation de la première partie, ils l'ont oublié. C'est ainsi que nous aussi, nous découpons un peu les versets bibliques, comme ça nous arrange. Moi, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens, quand ils vous prennent certains versets bibliques, ça vous fait frémir. Ça vous fait perdre presque les cheveux de la tête. C'est pour ça que j'en ai perdu beaucoup. Ça vous fait frémir, je vous le dis franchement. Quand ils prennent des versets, ils prennent que les versets qui les arrangent. Que les versets qui les arrangent. Et l'autre verset à côté, voyez-vous, ou même dans un même verset, la première partie, ça les intéresse, ils prennent ce verset. Mais la deuxième partie, où il faut un peu se mettre en ordre et tout ça, il n'y a plus rien, on a oublié ça. Alors c'est comme cela qu'on ne s'en sort pas. Il fallait qu'il soit crucifié. C'est ce qu'ils ont retenu, c'est tout. Mais qu'il ressuscite aussi le troisième jour, alléluia. Retenons tout ce que Dieu dit, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. C'est un impératif. Et vous savez, la résurrection a été une chose. Jésus ne serait pas ressuscité des morts si son œuvre à la croix n'avait pas été approuvée par le Père. La résurrection prouve une chose, c'est que le Père a accepté le sacrifice sanglant de son Fils pour le pardon de nos péchés. Si Jésus était resté dans la tombe, cela voulait dire une chose, c'est que le Père n'avait pas accepté le sacrifice de son Fils bien-aimé, qui n'était pas suffisant. Ça aurait été le message pour les disciples et pour le monde entier. Sa vie aurait été un échec. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Trois jours après, il est ressuscité. Quel est le message ? Mon Fils est mort sur la croix. Il a porté nos péchés, nos douleurs, nos maladies. Il a souffert pour nous donner la vie éternelle. Je l'atteste, c'est sur cette base-là, sur la base du sacrifice sanglant de Jésus qui est mort à notre place, que Dieu maintenant pardonne le péché des hommes. Il n'y a pas d'autre pardon aux hommes que par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et il est ressuscité pour que prouver cela et pour que nous allions maintenant annoncer ce glorieux message de la résurrection, du salut et de la rédemption acquise en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Et qu'il est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Et il est ressuscité, nous sommes ressuscités et nous avons un message. Jésus a tout accompli, l'œuvre est parfaite. Nous sommes parfaitement pardonnés. La réconciliation est totale. Nous sommes délivrés de la main de Satan, définitivement. Nous sommes un peuple libre pour l'éternité. Alléluia! Il n'a pas à revenir sur la croix pour mourir. Et pour nous délivrer encore de nos liens, il l'a fait une fois pour toutes. Bien, bien, parfaitement, définitivement, éternellement. Alléluia! Quand Jésus a dit sur la croix, je termine, tout est accompli. L'expression tout est accompli veut dire c'est fait. C'est parfaitement fait, ce sera toujours fait. Il n'y aura plus jamais rien à refaire, c'est terminé. Il nous a pardonné et il nous a délivré de la main de Satan pour toujours. C'est terminé. Crois-le, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut. Alléluia. Le message de la résurrection, c'est un message qui nous délivre totalement. C'est pourquoi nous pouvons vraiment nous réjouir dans le Seigneur. Et allez proclamer cette bonne nouvelle et apporter aux autres ce que Dieu nous a donné. Amen. Courbons-nous dans la prière maintenant. Merci.